Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir en effet la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Nous allons lire un passage qui commence à partir du verset 22. Jean, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement !» Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne le croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. Nous relisons le verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Voilà un verset admirable. Alors peut-être que certains chrétiens, parfois un petit peu pointilleux, disent, mais un passage comme ça, ça ne devrait pas être forcément utilisé à l'occasion d'un message d'évangélisation. Mais vous savez, lorsque je regarde le contexte, je vois quand même que ces paroles ont été prononcées par le Sauveur, non pas à l'égard de ses disciples, mais à ses ennemis. Parce qu'au verset 31, il est dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Mais lui voulait encore leur donner une occasion de se convertir. Il voulait encore leur faire réaliser combien ce qu'ils étaient en train de perdre était quelque chose vraiment de merveilleusement précieux et qu'ils ne devaient pas mépriser ce message sans grand dommage pour leurs âmes. Donc voilà. Alors, s'il y a une assemblée un petit peu mélangée ce soir, dirais-je, eh bien, s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore vraiment saisi la grande valeur, le grand prix des choses de Dieu, eh bien, nous voulons faire comme le Sauveur, c'est-à-dire afin que chacun puisse recevoir sans exception ce trésor inestimable qui est en lui. Amen. Alors donc, nous ne voulons pas perdre de temps et aller directement au cœur de notre texte. Le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. C'est qui leur ? Ça représente qui ? Et lorsque vous regardez, eh bien, il est question des brebis du Seigneur. Pour que nous ne soyons pas dans l'incertitude, il nous a décrit les agissements et les caractères de ces brebis. En verset 27, un peu avant, il est marqué, mes brebis entendent ma voix. Il ajoute encore, je les connais. Il ajoute encore, elles me suivent. D'abord entendre la parole de Christ, et puis ensuite le suivre, d'abord par la foi en lui, et puis ensuite en même temps et par l'obéissance active. La foi qui est agissante par l'amour, et bien c'est la marque des brebis de Christ, et c'est de vrais croyants que Jésus parle lorsqu'il dit, par ailleurs, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Voilà. Et donc, ainsi expliquer de qui ce texte parle, donc nous l'abordons maintenant de trois façons différentes, ce texte. Déjà, nous pourrons voir que ce texte implique tout d'abord quelque chose concernant le passé de ces personnes-là, de ces personnes dont il est question là. Ensuite, ce texte dit clairement aussi en deuxième, bien des choses sur le présent, la situation présente de ces gens-là. Et puis le texte indique effectivement, clairement aussi en troisième, quelque chose à propos de leur futur. Voilà, c'est pas compliqué hein, comme plan à suivre. Donc en premier, dans ce texte, eh bien, nous avons quelque chose concernant le passé du peuple de Dieu. Il est écrit « Je leur donne la vie éternelle ». Nous pouvons en déduire que cette vie éternelle, ils ne l'avaient pas. Cette vie éternelle, elle était perdue pour eux. Chacun des membres de ceux qui constituent aujourd'hui le peuple de Dieu était tombé à cause du péché d'Adam et à cause de ses propres péchés. Et en conséquence, eh bien, nous étions sous la condamnation et Jésus-Christ a fait pour nous ce que le président de la République française faisait parfois pour des criminels au temps où il y avait la peine de mort en France, c'est-à-dire qu'il leur accordait une grâce, un pardon immérité. Voilà, hein, donc, mais notre texte implique qu'en fait, il y avait plus encore que la condamnation, il y avait aussi l'exécution. Il y avait aussi l'exécution, nous n'étions pas seulement condamnés à mourir, mais nous étions spirituellement morts. Ça aussi, c'est une réalité. Et Jésus nous a donné une vie que nous n'avions jamais connue auparavant. L'apôtre Paul dit « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés ». Comment Paul ? Mort ? Oh, c'est un peu fort quand même. Est-ce que tu ne te trompes pas, Paul ? Est-ce qu'ils n'étaient pas plutôt malades ? Un peu malades peut-être ? Ou alors, bon, mettons qu'ils sont malades, mettons qu'ils sont tout près de la mort, mais sûrement qu'il y a encore un peu de force, un peu d'énergie vitale pour s'aider eux-mêmes. Non, 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 dit l'apôtre, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Et l'œuvre du salut, c'est quelque chose qui va plus loin que simplement la guérison du malade. L'œuvre du salut, elle va jusqu'à la résurrection des morts hors du tombeau. Et tous les chrétiens qui sont maintenant remplis de la vie de Dieu étaient autrefois morts, comme les autres. Hein, c'est-à-dire qu'ils étaient corrompus, pourris comme les autres. Mais oui, on peut parler comme cela. Hein. Autant en mauvaise odeur dans les narines de la justice divine que les autres, et même que les plus corrompus de leurs semblables. Nous étions tous égarés, loin du chemin. Nous étions tous devenus abominables, car il est marqué, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Hein. Donc, aucun des chrétiens ne possédait la vie. Hein. Ils n'avaient aucune vie spirituelle. C'est Jésus qui les a ressuscités à la vie de Dieu. Amen. Et ensuite, il est clairement impliqué aussi dans notre texte que ces gens n'auraient pas pu obtenir cette vie éternelle autrement que par un don. Hein. Je leur donne la vie éternelle. Il y a une règle que connaissent ceux qui étudient la Bible, ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui connaissent les façons d'agir de Dieu, c'est que vous ne rencontrerez jamais un miracle inutile dans la Bible. Hein, je dirais, quand une action de la nature serait suffisante, par exemple, hein, vous ne rencontrerez pas ça. Et maintenant, nous savons que dans le monde spirituel, les plus grands des miracles, c'est la conversion d'une personne, c'est le salut d'une âme. Hein, donc, et si cette âme avait pu se sauver elle-même, donc, eh bien Dieu ne l'aurait pas fait. Dieu aurait laissé faire donc, ce qu'elle pouvait faire. Et même si les morts spirituels pouvaient se ressusciter eux-mêmes, eh bien certainement Jésus ne serait pas venu pour leur donner la vie. Il faut quand même être conscient de cela. Et combien il serait impossible à aucun d'entre nous d'entrer au ciel, malgré tous nos efforts, si Jésus n'était pas venu pour nous montrer le chemin, pour enlever tous les obstacles et pour nous donner la force de marcher dans ce chemin de gloire, d'immortalité, perdu. La race humaine était complètement perdue, non pas perdue en partie, ni dans une condition où peut-être, moins de travailler très fort, se sauver elle-même, elle se serait perdue. Non, elle était tellement perdue qu'à moins que le bras de Dieu ne se mette en route, ne s'interpose, à moins de l'œuvre incroyable du calvaire, à moins de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, aucune âme morte ne pourra jamais revivre. Voilà, il faut réaliser et saisir cela. Et d'autre part, vous pouvez voir que cette vie éternelle n'est pas le mérite d'aucun des membres du peuple de Dieu, puisqu'il est dit qu'elle nous est donnée. Elle nous est donnée. Vous savez qu'un cadeau, c'est tout à fait le contraire d'un paiement, hein, surtout, ou même du paiement d'un salaire. Ce qu'un homme reçoit comme cadeau, il ne peut pas le mériter. Aucun d'entre nous ne mérite la vie éternelle et ne pourra jamais la mériter. Je dirais, la vie habituelle, la vie mortelle, dirais-je, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. On ne la mérite pas, personne ne la mérite. Hein. Et en ce qui concerne la vie éternelle, dont il est parlé dans le texte, eh bien c'est un cadeau qui est trop élevé pour que les hommes puissent espérer l'atteindre même du bout des doigts. L'homme ne mérite rien que la perdition, il ne mérite rien que la mort, et la vie doit être le libre don de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, donc, c'est vrai qu'il s'agit là quand même d'une doctrine qui est très humiliante pour l'homme, hein, pour la fierté de l'être humain. Mais cette doctrine est vraie. Et combien il est nécessaire que chaque enfant de Dieu en soit bien pénétré. Hein, donc, rappelons-nous chacun, frères et sœurs, rappelons-nous chacun la fosse dans laquelle nous étions enfoncés, ou vers laquelle nous étions en train d'aller d'une manière absolument certaine. Rappelons-nous du puits duquel on a été tiré. N'oublions pas ce tas d'ordures dans lequel on était auparavant, hein, dans lequel on gisait auparavant. Il ne faut jamais l'oublier cela. Hein. Souvenons-nous de ces haillons d'orgueil qui a été remplacé par le vêtement du salut. Hein, que nous ne puissions pas nous glorifier nous-mêmes de ce que nous avons reçu. Amen, amen. Et puis il est clair aussi, d'après notre texte, que ceux qui sont justes maintenant auraient été perdus s'il n'y avait pas eu Christ. Hein, parce que le texte dit, Christ dit, « Elles ne périront jamais ». Et là encore, les promesses de Dieu ne sont pas données comme quelque chose de superflu. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour cette personne. Il y a un danger solennel qui est là, c'est que chacun de ces hommes qui sont maintenant sauvés, eh bien, serait mort éternellement, serait perdu éternellement. Le péché avait fait d'eux des héritiers de colère, comme les autres, dit l'Écriture. Hein. Donc, la justice divine les aurait frappés, comme les autres, si la gloire de Dieu ne s'était pas manifestée. Et même jusqu'à présent, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas la promesse pour nous soutenir continuellement, eh bien nous serions tous prêts d'abandonner Christ et d'être perdus. Il y a un danger de périr éternellement. Il y a 10 000 risques d'être perdus, c'est vrai, et ce n'est que par la promesse de Dieu, ce n'est que par la parole de Dieu, la confiance au Seigneur, que nous pouvons être gardés. Amen. Voilà, donc après cette première partie qui nous parle du passé, des enfants de Dieu. Voyons maintenant la deuxième qui nous parle de leur présent. Donc, et ce texte répand, je dirais quelque part, un flot de lumière sur l'état présent de chaque vrai croyant. La première partie de phrase que nous voyons, la première phrase, nous parle d'un cadeau reçu, et ce cadeau, c'est la vie éternelle. « Je leur donne la vie éternelle », est-il écrit au début de ce verset 28. Vous ne comprendrez pas la parole de Dieu si vous confondez la vie et l'existence. Ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes. Je crois qu'il faut saisir cela. Tous les hommes existeront pour toujours. Hein. Toutes les âmes existeront pour toujours. Ça, c'est une réalité. Mais beaucoup connaîtront la perdition éternelle. Ce que la Bible appelle la mort éternelle, hélas. Ils ne connaîtront rien de la vraie vie s'ils ne changent pas. Hein. Donc, la vie, c'est quelque chose qui est différent de l'existence. Et dans la parole de Dieu, la vie, ça implique une activité pleine de bonheur dans la communion avec Dieu. Et dans notre texte, elle implique beaucoup de choses. Vous savez, ils avaient différentes sortes de vie. Par exemple, vous pouvez noter la différence qu'il y a entre une pierre et une plante. Hein, par exemple, donc, la plante a une vie végétale que la pierre qui est inerte n'a pas. Donc, vous connaissez après la différence entre l'animal et la plante. Donc, ça aussi, c'est une différence. Bien que la plante ait une vie végétale, elle est morte, je dirais, dans le sens où nous parlons d'animaux vivants parce qu'elle n'a pas les sensations qui appartiennent à la vie animale. Voilà. Et puis, si nous nous tournons vers un degré plus élevé, voici la vie mentale. Et là encore, un animal est complètement mort en ce qui la concerne. Il ne peut pas entrer dans les calculs subtils du mathématicien, où il ne peut pas entrer dans la sensibilité du poète, l'animal n'a rien à faire avec la vie mentale. Il est mort à cette vie-là, nous le voyons. Mais il y a un degré plus élevé que la vie mentale. Et ça aussi, il faut le savoir, un degré de vie inconnu du philosophe, à moins qu'il ne soit croyant. Donc en tout cas, mais ni Platon ni Aristote, par exemple, n'ont parlé de cette vie-là. Et pourtant, eh bien, cette vie, elle est connue du plus petit des enfants de Dieu. Hein, donc c'est une sorte de vie qui s'appelle la vie spirituelle. C'est une vie qui est complètement nouvelle. Je dirais qu'il n'appartient pas à l'homme de manière naturelle, on le voit, mais qui lui est donné par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est marqué que le premier Adam, le premier homme Adam, a été fait une âme vivante. Et puis qu'ensuite, tous ses descendants sont comme lui, sont des âmes vivantes. Mais le second Adam, est-il marqué, a été créé esprit vivifiant. Esprit vivifiant, et jusqu'à ce que nous venions à lui, eh bien, nous ne connaissions rien de la vraie vie spirituelle. Il faut savoir cela. Et cette vie que Jésus donne à son peuple, c'est en même temps, je dirais, une vie qui est mystérieuse. Parce que lorsque vous regardez dans Jean chapitre 3, par exemple, lorsque Jésus s'adresse à Nicodème et lui dit, en parlant de cette vie, en parlant du vent, et qu'on passe là au vol, à l'action du vent, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà ce que dit le Seigneur. Hein. Et vous qui avez une vie mentale, vous ne pouvez pas expliquer à un chien ou à un cheval ce que c'est que la vie mentale. Et bien de la même façon aussi, ceux qui ont une vie spirituelle ne peuvent pas expliquer aux autres, à ceux qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas expliquer, leur faire comprendre cela. Ils peuvent comprendre les effets, ils peuvent comprendre les résultats, mais dire que cette vie éternelle de la flamme divine, ce qu'elle est, eh bien ça, vous ne le pouvez pas, bien que vous soyez conscient de sa présence, bien que vous soyez conscient de son action dans votre cœur. Donc voilà, ça c'est aussi une réalité. Et non seulement cela, non seulement c'est une vie spirituelle, mais c'est une vie divine. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, nous avons été rendus participants de la nature divine. Rendu participant de la nature divine. Ça ne veut pas dire que nous devenons divins, ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais nous recevons une nature qui nous permet d'aspirer aux meilleures choses de Dieu et qui permet à Dieu de faire vraiment une œuvre en nous. Nous aimons parce que Dieu est amour, hein, tant qu'à ce moment-là, et qu'il agit en nous pour que nous puissions aimer nous aussi. Hein. Nous commençons à être saints, pourquoi ? Parce que Dieu est trois fois saint. Et qu'il opère en nous par son esprit l'œuvre de la sanctification. Nous aimons faire le bien, pourquoi ? Parce que Dieu est bon, hein, et que Dieu fait le bien de manière parfaite. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Adam a perdu cette image. Et Christ, c'est celui qui restaure cette image. Et lorsqu'il nous redonne la vie, cette vie qu'Adam avait avant de pécher, hein, lorsque Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, eh bien, on dira, mais il n'est pas mort. Mais si, il est mort. À l'instant même où il est allé vers le fruit, il l'a pris, à l'instant même, il est mort. Spirituellement, je veux dire, hein, pas physiquement, mais spirituellement, il est mort. Hein. Il est mort dès qu'il a eu touché le fruit. Et donc, Christ, c'est celui qui redonne cette vie perdue, depuis si longtemps, à toute âme qui croit en lui. Et puis, la vie que Christ donne aux siens, c'est aussi une vie, je dirais, active. Une vie énergique, on pourrait presque dire une vie énergétique. Hein. Donc combien elle est active et combien elle sera active encore plus dans l'éternité de gloire. C'est vrai, elle est active, pourquoi ? Parce qu'elle va combattre le péché qui est en nous déjà. Ah ben ça c'est une réalité. Hein. Et elle ne va pas être satisfaite jusqu'à ce que le péché soit détruit, jusqu'à ce que le mal soit vaincu par le bien. Si quelqu'un me dit, moi je suis chrétien, j'ai pas de conflit intérieur, alors je peux me poser des questions, moi. Moi je me pose des questions, parce que je me dis, mais est-ce que cette personne est véritablement née de nouveau ? Parce que si elle était née de nouveau, elle aurait des combats entre son ancienne et sa nouvelle nature. Donc normalement c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre continuelle, parce que la nouvelle nature, elle, ce qu'elle veut, elle veut gagner du terrain jour après jour. Hein. Et donc, l'homme devient un nouvel homme. Il devient un nouvel homme à la maison. Hein. Sa femme, sa famille le voit. Hein. Il est changé. Et il devient un homme différent aussi dans son travail. Il est aussi changé dans ses relations avec les autres et dans ses relations avec Dieu. Il faudrait plus de temps pour parler de cette vie intérieure, mais ce que nous avons dit déjà devrait suffire pour indiquer la bénédiction par Jésus dans un croyant par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Et puis un mot dans le texte qui qualifie cela. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Vous savez ce que ça veut dire éternel ? Éternel, ça veut dire sans fin. Ça veut dire sans fin. Ça veut dire qu'on ne peut pas être juste un enfant de Dieu un jour et puis ne pas être un enfant de Dieu le lendemain ou un enfant du diable le lendemain. Quand on a reçu la vie spirituelle, quand on a reçu la vie éternelle, c'est pour toujours que Dieu veut nous la donner en Jésus-Christ. Amen. Et puis remarquez aussi que cette vie éternelle commence quand ? Elle commence maintenant. Je leur donne. Je leur donne, c'est pas je leur donnerai, mais je leur donne maintenant déjà la vie éternelle. Si bien sûr, ils la reçoivent, s'ils l'acceptent. Donc, si vous ne l'avez donc pas maintenant, et pas encore, et puis que vous êtes encore perdu, mais si vous venez à Jésus, eh bien alors vous n'aurez pas cette triste et lamentable existence ici-bas. Suivi d'une existence terrible de malédiction dans l'éternité, mais vous aurez la vie éternelle que le Seigneur vous donne déjà et puis qui va se manifester par des bénédictions extraordinaires. Cette vie est donnée comme un cadeau à chaque membre du peuple de Dieu et elle est accordée par le Seigneur et par personne d'autre. Amen. Amen. Nous voulons tourner maintenant vers la deuxième partie de cette bénédiction dans le verset 28. Dans la première, c'était « Je leur donne la vie éternelle » et « Elles ne périront jamais ». Elles ne périront jamais. Pardon. Il faut peser chaque mot. Marquez « Elles ne périront jamais ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être certaines de leurs idées vont périr, oui. Peut-être, je ne sais pas, certains de leur réconfort peuvent périr. Certaines de leurs expériences, peut-être. Mais eux, non. Mais ces brebis-là, non. La promesse n'est pas que nous ne perdrions rien, mais la promesse, c'est que nous ne périrons pas. C'est ça la promesse. Certainement, il agira puissamment pour soutenir sa parole et nous ne perdrons rien qui soit vraiment nécessaire, rien qui soit vraiment utile, rien qui soit vraiment bénéfique pour nous. Amen. Voilà. Vous pouvez prendre un autre mot. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. La vie en eux, la vraie vie, ne sera jamais détruite, elle ne sera jamais chassée. Si vous mettez du levain, par exemple, et que vous le mettez dans un morceau de pâte, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez tout faire, vous n'arriverez pas à le faire sortir. Donc vous pouvez, je ne sais pas, vous pouvez le frire, vous pouvez le faire cuire, faire ce que vous voulez avec, mais le levain est dedans. Le levain est dedans et il restera dedans. De la même façon, la vie divine est et demeurera toujours en ceux qui se confient en Christ. Ils ne périront jamais. Amen. Et puis prenez maintenant ce mot « jamais ». Alors certains diront « mais s'ils deviennent très âgés et s'ils tombent dans le péché, eh bien, s'ils reviennent à Christ, ils ne périront jamais. Amen. Mais s'ils sont vaincus par la tentation, eh bien là encore, s'ils regardent à Christ, il les relèvera toujours. Béni soit son nom. Alléluia. Pour ceux qui se confient en le Tout-Puissant, eh bien, ils seront gardés, ils seront secourus, ils seront en sécurité, ils passeront, je dirais, quelque part en sécurité, le cap de la jeunesse avec ses passions qui, malheureusement, sont cause de perdition et d'égarement pour un si grand nombre. Ils vont passer l'âge moyen aussi avec toutes ses occupations, avec tout le tourbillon des affaires. Là aussi, c'est vrai qu'ils vont passer cela en sécurité. Le Seigneur aussi va agir pour cela et quelle grande chose aussi que cela. Et puis la vieillesse, avec peut-être, oui, aussi ses infirmités, ça va être malgré tout l'avant-goût du repos parfait de Dieu, puisque le Seigneur va les secourir et les renouveler jour après jour. Amen. Dans Ésaïe 43, verset 2, il est marqué « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Ils ne périront jamais. Et puis la troisième phrase de notre texte nous parle d'une position garantie dans sa main. Personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. À être dans la main du Seigneur, vous savez, c'est une place d'honneur, quelque part. Nous sommes comme l'anneau que le Seigneur porte à son doigt. Et puis c'est une place d'amour, parce qu'il est écrit encore, le prophète nous dit encore, parlant de Dieu, « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains ». Donc, c'est une place de propriété. Christ est celui qui tient son peuple dans sa main. Il est marqué « Tous les saints sont dans sa main ». Ça veut dire qu'ils sont à lui, ça veut dire qu'ils lui appartiennent. Et c'est une place de puissance. Pourquoi ? Parce que la main droite de Dieu englobe tout son peuple. C'est cette main de puissance. Et puis c'est une place aussi de direction et de protection. De la même façon que les brebis sont sous la main du berger, eh bien ainsi sommes-nous sous et dans la main de Christ. Amen, amen. Mais que dit notre texte ? Notre texte nous laisse comprendre que certains voudraient nous arracher à la main de Christ. Personne ne les ravira de ma main. Oui, ceux qui ont de mauvaises doctrines, et il y en a hélas beaucoup, hein, pour séduire, s'il est possible, même les élus aujourd'hui, eh bien non, ils ne pourront pas les arracher de la main du Seigneur. Alléluia. Les persécuteurs rugissants ou ceux qui sont insidieux, eh bien, de la même façon. Hein. Notre propre cœur, mauvais, hein, faut pas le sous-estimer celui-là. Les passions qui y sont contenues, ça aussi, ça ne pourra pas nous arracher de la main du Seigneur. Et puis vous avez les démons, puis vous avez le prince des démons, bien sûr, le diable lui-même, avec ses mensonges, avec ses confusions, avec ses séductions. Lui aussi ne pourra pas nous arracher de la main du Seigneur. Alléluia. Et puis le monde aussi, le monde, ben voilà, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, rien de tout cela ne va arracher les croyants de la main du Seigneur, donc de la main de Christ, quelle promesse bénie nous avons, que nous pouvons invoquer en tout temps, spécialement dans l'épreuve et la difficulté. Amen, amen. Et puis nous arrivons au dernier point, nous avons parlé un petit peu déjà, c'est-à-dire le regard de notre texte vers le futur. Si Dieu nous donne la vie éternelle, je leur donne la vie éternelle, dit-il, eh bien ça comprend évidemment tout le futur. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre vie s'épanouira lorsque les empires, lorsque les grandes puissances, dont on parle beaucoup dans l'actualité, lorsqu'elles vont décliner, puis qu'elles vont disparaître. Hein ? Et votre vie continuera. Je dirais quand le cœur de ce grand monde se refroidira, hein, quand quelque part le pouls de ces immenses océans cessera de battre, quand le soleil commencera à se ternir, eh bien vous possédez la vie éternelle. Amen. Hein. Quand, comme l'écume d'un moment s'écroule dans la vague qui l'a produite, de la même façon l'univers entier aura disparu sans laisser la moindre trace, eh bien vous irez, et puis moi aussi, Dieu voulant, le mieux du monde. Hein. Le mieux du monde, pourquoi ? Parce que vous avez la vie éternelle, de plus en plus heureuse, de plus en plus merveilleuse. Alléluia. Hein. Vous avez une vie qui marche parallèlement avec l'existence du Dieu vivant. Quel avenir de gloire est ouvert devant vous en Jésus-Christ. Quelle intensité de vie en lui. Quelle puissance de vie en lui. Parce que je vis, vous vivrez aussi, dit Jésus. Amen. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y aura Christ, il y aura une âme heureuse et ce sera votre âme. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, et elle sera heureuse d'un bonheur inexprimable. Amen. Oh, que l'ange puissant vienne, il va venir, il va poser son pied d'un côté sur la terre, l'autre côté sur la mer, et puis il jurera par celui qui est vivant au siècle des siècles qu'il n'y ait plus de temps, et alors tout cela se produira, et puis tout vrai croyant vivra. Pourquoi ? Parce que Christ leur donne la vie éternelle. Amen. Amen. Et puis la phrase suivante aussi, regarde dans le futur, elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Ça veut dire qu'elles ne cesseront jamais d'exister pardon, en perpétuelle bénédiction. Elles ne cesseront jamais d'être comme Dieu dans leur nature. Essayez d'imaginer que vous ayez passé 1000 ans au ciel. Essayez d'imaginer cela. Vous avez passé 1000 ans avec le Seigneur Jésus. 1000 ans en communion bénie avec lui. Alléluia. 1000 ans, je dirais, passés dans son sein. Passer dans la plénitude de son amour. Hein. 1000 ans avec sa vision pour réjouir et pour ravir notre esprit. Mais ce sera autant que si vous n'aviez jamais commencé. Hein. Que si vous veniez juste de commencer. Pourquoi ? Parce que vous ne périrez jamais, jamais. Amen. Quelle éternité de gloire, quel délice inexprimable qui est contenu dans cette promesse. Elles ne périront jamais. Et puis, la troisième partie de notre texte aussi, personne ne les ravira de ma main, ça regarde dans le futur également, bien sûr. Hein. Pardon. Nous serons dans sa main pour toujours. Nous serons dans son cœur pour toujours. Alléluia. Nous serons dans sa personne même pour toujours, un seul avec lui. Et personne ne pourra nous enlever. Heureux, heureux l'homme. Heureuse la femme qui peuvent s'approprier cette promesse si Alléluia. Amen. Alors on peut se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Et pourquoi ? Parce que nul ne pourra nous ravir notre joie. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs ici auxquels je voudrais tellement que cette promesse puisse maintenant appartenir, qu'ils puissent vraiment s'en saisir, parce qu'elle est tellement riche, elle est tellement pleine de réconfort, oui, que vous puissiez vous l'appliquer à vous-même, que vous puissiez vous l'appliquer avec assurance. Vous savez, pour ça, il y a une seule clé. Il y a une seule clé pour arriver à accéder à cette chambre de trésor. Et cette clé, elle a la forme d'une croix, hein. Cette clé, c'est celle de la croix de Jésus-Christ, auquel vous ferez confiance. Est-ce que vous ne pouvez pas lui faire confiance ? S'il y a quelqu'un qui est digne de confiance, s'il y a quelqu'un qui est bon et digne de confiance, s'il y a quelqu'un qui est parfaitement fiable, oui, c'est bien lui. Alors venez à lui maintenant. Venez à lui sans plus tarder pour bénéficier aujourd'hui de sa merveilleuse promesse. Amen, amen. Hein, vous savez, c'est l'histoire de cet homme, donc. Cet homme qui, un jour, désignait d'un geste un terrain de grande valeur, qui était estimé à des centaines de milliers d'euros, et puis cet homme disait « J'ai eu l'occasion d'acheter cela pour 3 fois rien il y a 20 ans, mais… » Mais voilà, ce petit « mais » faisait toute la différence entre l'homme riche qu'il aurait pu être et ce qu'il était, c'est-à-dire un homme relativement médiocre. Hein, donc voilà. Et certains disent, ben j'aimerais bien devenir chrétien, mais quoi ? Ah ben mais quoi, justement. Et voici quelques exemples de cette légion innombrable de mais qui existe. Hein. Donc, j'aimerais devenir chrétien, mais laissez-moi un peu de temps pour profiter de la vie. Que nous dit l'Écriture ? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Amen. C'est dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Alors un autre va dire, « Ah ben moi, j'aimerais bien devenir chrétien, mais je suis trop jeune. La religion, c'est une affaire de vieux. » Ah voilà, ça existe aussi, ça. Hein. Alors, vous savez, si on réfléchit un peu, si c'est une bonne chose que d'arrêter une maladie et d'en guérir, alors pourquoi attendre que le mal s'insinue jusque dans les parties vitales de notre organisme ? Pourquoi attendre, hein, tant que les choses ne s'arrangeront pas ? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13. Un autre va dire encore, « Mais moi je ne peux pas être chrétien et te donner ma profession. » Ah ben alors c'est qu'il y a un problème dans ta profession. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta profession. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et maintenant, dit l'Éternel, j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est dans 1 Samuel 2, verset 30. Et puis, voilà ceux qui disent, « Ah, je voudrais bien devenir chrétien, mais il y a trop de choses à abandonner. » Ah ben voilà aussi, hein. Imaginez un misérable, un miséreux, faisant une réponse, cette réponse à quelqu'un qui lui proposerait une place et un rang dans le palais d'un roi. Il a des petites choses là qui ne valent pas grand-chose et puis il refuse alors qu'il y aurait tellement plus à recevoir en venant à Christ. Notre Sauveur dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Amen. Et puis voilà ceux qui disent, mais je veux devenir chrétien, mais je ne pense pas pouvoir persévérer. Ah ben tout chrétien pourra vous dire, vous savez, si je tiens bon, moi, c'est parce que je suis soutenu par le Seigneur. Si je tiens bon, Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il faut que tu entres par Jésus. Quand Jésus sauve, il sait aussi garder avec sollicitude. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Et des millions d'âmes ont mis à l'épreuve la vérité de cette promesse divine. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9. De l'autre, on va dire encore, je voudrais bien devenir chrétien, mais je suis trop mauvais. Vous savez, ce n'est pas notre indignité qui nous disqualifie, c'est notre mauvaise volonté qui nous disqualifie. C'est ça plutôt le problème. Hein. Le Sauveur a affirmé, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'a posé aucune condition. C'est dans Jean chapitre 6, verset 37. Et voilà celui qui va dire, ah, je voudrais bien devenir chrétien, mais Je suis bien trop occupé actuellement. Ah, vous n'êtes pas trop occupé quand il s'agit, je ne sais pas moi, d'assurer votre maison ou d'assurer votre voiture. Hein, là, vous n'êtes pas trop occupé pour ça. Vous n'êtes pas trop occupé quand il s'agit de gagner l'argent. Vous savez, un jour, vous ne serez pas trop occupé quand il faudra mourir et laisser tout ça derrière soi. Ben donc là, ce sera comme ça. Hein. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et puis ceux qui vont dire, ben, je voudrais bien devenir chrétien, mais Seigneur, je voudrais te suivre, mais j'ai encore bien le temps. Ah oui, ben, voilà encore le mais quelque part le plus illusoire que puisse nous suggérer le diable. Hein. Donc, il y a quelques années, il y a des marins qui étaient en train de calfater un navire, un bateau sur la grève, entre deux marées. Faisait ça, et puis il y avait des supports hein, pour maintenir le bateau droit, puis la marée elle monte, hein. Après avoir descendu, elle monte, et voilà que la marée montante a commencé à déplacer quelques-uns des supports, alors on a lancé un cri d'avertissement, mais il y avait un homme qui travaillait sous la coque, il a pensé pouvoir terminer sa tâche, il avait presque fini, pensait-il, et au second avertissement, il a essayé de sortir en rampant, mais trop tard. Le navire s'affaissait sur ses jambes, et puis il a retenu prisonnier sous le poids, et tous les efforts pour le sauver ont été vains. Cet homme avait cru avoir le temps, avoir cru avoir amplement le temps, mais son imprudence lui a coûté la vie. Hein, donc Dieu dit, voici maintenant le jour favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Eh oui, vous savez, on ne dispose pas du futur. On ne dispose que du présent. Et encore, hein, saisissons bien l'occasion lorsqu'elle se présente. Ne remettons pas à plus tard. Confiez votre vie dans le Seigneur Jésus. Vous confiez-la entièrement et sincèrement. Et à ce moment-là, vous ne périrez pas. Alors, ou alors, ça veut dire que je périrai aussi avant vous et que tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur périront également. Et les saints et les apôtres et les martyrs, ça veut dire qu'eux aussi ils périront éternellement. Or, tout ça, c'est impossible d'après la parole de Dieu qui est infaillible. Et c'est pour ça, venez à lui maintenant avec et que cette promesse aussi puisse être pour vous. Cette triple promesse, je leur donne la vie éternelle, premièrement. Elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que tu es encore un bon et puissant sauveur. Et voici qu'en ce jour encore, par ta parole, Seigneur, tu es celui qui nous rappelle ce qui nous est bénéfique, ce qui nous est salutaire, et qui nous démontre encore la grandeur et la réalité de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Nous ne méritons pas, et nous ne méritions pas, nous ne mériterons jamais la vie éternelle, Seigneur. Et cependant, tu veux nous faire ce cadeau extraordinaire. C'est vrai que nous ne méritons pas d'aller au ciel, nous méritons de périr et d'aller en perdition, voilà ce que nous méritons. Et cependant, Seigneur, tu as accompli l'œuvre du salut pour que chacune et chacun d'entre nous, si nous venons à toi, soyons pardonnés, purifiés et sauvés pour l'éternité. Alléluia, c'est vrai. Et nul ne les... et Seigneur, ne méritons pas d'être protégés par toi quand tu dis « Nul ne les ravira de ma main, Seigneur ». Cependant, tu le fais dans cet amour si grand, si incompréhensible et cependant si réel et si puissant. Tu agis ainsi pour ceux qui se confient en toi. Et c'est pour ça que tu nous appelles maintenant, Seigneur, et que tu appelles tout spécialement ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme leur sauveur, leur Seigneur, pour qu'ils véritablement fassent l'expérience de la vie véritable, oui, de la vie véritable, non plus simplement d'une existence, mais de la vie véritable qui se trouve en toi. Merci notre Sauveur. Amen, Jésus, alléluia.